Il est 7h sur Inter. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes le 7 avril, le journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'actualité ce matin, c'est aussi ce violent incendie. La nuit dernière à Paris, un immeuble d'habitation partiellement détruit. Il n'y a aucune victime.
Les cérémonies de commémoration des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, un drame indicible qui a changé à jamais la face du pays. Dans ce journal, nous reviendrons sur le premier meeting de campagne de Raphaël Glucksmann, le candidat socialiste aux européennes. C'était hier à Toulouse. Sale semaine pour l'Olympique lyonnais. 4 jours après son élimination en demi-finale de Coupe de France, Lyon a chuté hier à domicile face à Dijon. Dijon dernier au classement de Ligue 1.
L'invité à partir de 8h20 ce matin, ce sera Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, alors que le gouvernement français vient de réduire ses prévisions de croissance pour 2019. Question donc ce matin sur la croissance. On vous promet de rester pédagogique.
France Inter. Dans l'actualité de la nuit, ce violent incendie hier soir à Paris, un immeuble d'habitation a été partiellement détruit sans faire de victimes. Boulevard McDonald, dans le 19e arrondissement, aucune victime à déplorer car les habitants ont eu le temps d'évacuer, selon les pompiers de Paris, qui sont intervenus très rapidement. C'est le reportage de Sandrine Eto à Ondeg.
Hier soir, cette habitante du 3e étage a eu la peur de sa vie.
Les jeunes sont venus, ils ont fait un raffut dans les escaliers, ils ont tapé à toutes les portes en criant qu'il y avait le feu pour nous faire sortir. Donc on n'a même pas eu le temps de s'habiller, on est descendu, on a vu qu'il y avait le feu au 4e étage sur le côté. Nous on voyait pas, on ne sentait pas la fumée et du coup eux de dehors sont rentrés et nous ont tous fait évacuer. Sans eux, on serait peut-être mort à cette heure-ci. Les enfants ils sont un peu traumatisés.
Le feu est violent, les flammes se propagent du 2e au 5e étage. D'importants effectifs de pompiers arrivent sur place. Vers 23h, l'incendie est maîtrisé.
Le point favorable, c'est vraiment l'heure.
Le porte-parole des pompiers de Paris, le lieutenant-colonel Gabriel Plus.
Le fait qu'on ait été appelé assez rapidement, qu'on se déplace avec un certain nombre de moyens, et surtout qu'à cette heure de la journée, peu de personnes dorment. On sauve très peu de personnes, on ne déplore aucun blessé léger, aucune personne manquante à l'appel.
Les opérations de reconnaissance se sont prolongées jusque tard dans la nuit pour bien confirmer qu'il n'y a aucune victime. Alors qu'est-ce qui a provoqué ce départ de feu ?
Il est trop tôt pour déterminer l'origine de ce sinistre. Toujours est-il qu'on signale une à deux explosions préalables à cet incendie. Il se peut que ce soit des bouteilles de gaz stockées sur le balcon qui aient pu faciliter le développement de ce feu. Toujours est-il que l'immeuble n'est pas équipé de gaz.
Une hypothèse à confirmer.
Sandrine Eto-Andeg. À 2 jours du compte-rendu du grand débat national, les Gilets jaunes ont enregistré hier leur plus faible mobilisation en 5 mois. 3500 personnes à Paris, 22 300 en France. Aucun incident majeur, 43 personnes ont été interpellées. Après le test télévisé, le test du terrain pour la tête de liste socialiste aux européennes, Raphaël Glucksmann a lancé sa campagne hier à Toulouse, dans le temple du rugby, au stade Ernest Wallon. Après sa médiocre prestation de jeudi dernier à la télé, il fallait montrer que les militants socialistes soutenaient le choix de leur direction de s'unir avec place publique. Raphaël Glucksmann a donc ancré son discours dans le champ d'une gauche sociale et écologiste. Message bien reçu auprès des militants, bien que certains auraient espéré un rassemblement plus large pour cette élection à Toulouse. Reportage de Stéphane Iglesis.
Raphaël Glucksmann ne sait pas encore lire un prompteur, cet écran où défile le texte de son discours. Mais globalement, les militants socialistes ont retrouvé leur fierté de trouver enfin un candidat qui ne met pas ses valeurs de gauche dans sa poche. Bon, évidemment, la tête de liste n'est pas PS, mais Daniel s'en réjouit.
Il ne faut pas le prendre à la négative, c'est pas est-ce qu'il n'y a pas de tête de liste PS, c'est qui c'est qu'on choisit pour porter nos valeurs et nous représenter aux élections européennes. Et je pense que le choix de Raphaël Glucksmann, c'est le bon choix, parce que justement, ça permet d'avoir une image un peu nouvelle au niveau européen, d'avoir quelqu'un qui a réfléchi aussi sur les crises qui traversent la France et de l'avoir au niveau européen pour y répondre, je pense que c'est important.
Pierre se dit que l'union aurait dû être plus large.
J'aurais bien voulu un peu plus d'unité avec les amonistes, avec les communistes. Pour eux, c'est une liste qui gagne.
C'est aussi l'avis de Jean-Marie.
Mais on ne pourra pas reprocher au PS de ne pas avoir tout fait pour qu'il y ait une alliance. Donc, si petite soit-elle, c'est une alliance quand même. Et donc, du coup, moi, ça ne me dérange pas. S'il y a une telle urgence en matière d'écologie, pourquoi on n'est pas tous ensemble, quoi ?
Ces militants sont ressortis de ce meeting regonflé avec l'ambition de porter des valeurs sociales et écologiques pour sortir l'Europe d'un simple marché au service des lobbies. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Après la nouvelle arrestation de Carlos Ghosn au Japon, son épouse pourrait être prochainement auditionnée. Le parquet de Tokyo a fait une demande en ce sens selon la chaîne de télé NHK. Les procureurs soupçonnent l'ancien patron de Renault-Nissan d'avoir fait transiter une partie des sommes qu'il aurait détournées via une société dont sa femme est l'une des dirigeantes. Carol Ghosn, elle, est rentrée en France hier et dans un entretien au journal du dimanche, elle en appelle au président de la République, décidée à défendre son mari qu'elle dit victime d'un coup monté. Elle clame son innocence et demande que Carlos Ghosn soit jugé de façon équitable. Elle confie également qu'un message a été enregistré par son mari, message dans lequel il désigne les responsables de ce qui lui arrive. Ce message sera prochainement diffusé.
25 ans après, le Rwanda se souvient de l'indicible. Le pays commémore ce dimanche le génocide de 1994.
Au moins 800 000 morts en 100 jours, essentiellement parmi les Tutsis. En l'espace d'une génération, le Rwanda s'est reconstruit sur les plans politiques, social, économiques. Mais la mémoire du dernier génocide du XXe siècle n'est pas effacée. Le traumatisme est toujours là. Cette journée ouvre une semaine d'activités consacrée à la mémoire, une commémoration très douloureuse pour les survivants et leurs familles. À Kigali, la correspondance de Jean-Pierre Monza d'RFI pour France Inter.
Le choc des commémorations est tellement violent que des psychothérapeutes doivent s'occuper des rescapés submergés par l'émotion. Parce que 25 ans, c'est le symbole d'une génération, les cérémonies d'aujourd'hui ont un aspect particulier. Elles commenceront en milieu de matinée avec le dépôt de gerbes au mémorial du génocide de Kigali. 250 000 victimes y sont enterrées. Puis vient la séquence politique de la journée avec le discours du président rwandais Paul Kagame, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et celui de la Commission de l'Union européenne Jean-Claude Juncker s'exprimeront également. Ça n'est que dans l'après-midi qu'aura lieu la partie mémorielle des cérémonies, une marche du souvenir, 2 kilomètres, les délégations officielles et la population ensemble, du Parlement jusqu'au stade Amahoro, le stade où 30 000 personnes assisteront à un spectacle et entendront des témoignages de rescapés. Les noms de 100 victimes seront également lus par des jeunes, 100 noms issus de familles entièrement décimées dans les massacres. Jean-Pierre Monza, Kigali, RFI pour France Inter.
Si vous habitez à Paris, vous pourrez peut-être profiter de votre dimanche pour aller manger une barbe à papa à la Foire du Trône. Elle a rouvert ses portes avant-hier. Alors pour les forains, c'est une saison très importante qui démarre dans une période où leur activité est en baisse, où ils sont chassés des centres-villes. C'est notamment le cas au Mans, où la décision du maire a provoqué de violentes manifestations. Benjamin Boucriche a rencontré Alexia et son fils Scott. Ils sont venus à Paris avec leur trampoline géant. C'est une famille de forains depuis plusieurs générations, mais ils ont peur que cette année soit la dernière.
Assise à quelques mètres de son trampoline, Alexia observe son fils, Scott, qui met quelques coups de clé à molette. La maman de 48 ans a les yeux qui pétillent.
Je suis fière à fond, mais j'ai peur, parce que j'ai peur qu'il n'ait pas la liberté qu'on a connue toute notre vie. Ça va être dur chez nous.
Deux raisons à ces difficultés. La première, les mairies éloignent de plus en plus les fêtes foraines des centres-villes, ce qui fait donc chuter le chiffre d'affaires des forains.
On est en perdition, ils veulent plus des forains. Les maires essayent de nous exterminer en fait. On n'est que là pour la joie et la bonne humeur des gens, donc je vois pas pourquoi on dérangerait quelqu'un.
Deuxième raison, une récente ordonnance du gouvernement qui oblige les villes à faire un appel d'offres avant chaque fête foraine.
Il y a un monsieur qui va arriver, qui connaît rien de notre métier. Il va dire voilà, moi je m'occupe de ça, mais vous je vous veux plus, vous je vous veux plus, vous je vous veux plus. Il a le droit de nous balancer. On n'existe plus, on n'est rien pour eux.
Scott a seulement 20 ans, c'est donc lui le plus concerné par ces changements.
On se pose des questions, ouais. On essaye de pas trop y réfléchir non plus. Hein. On n'y pense pas, on fait notre métier et puis on aime ça, on est là tous les jours. Depuis qu'on est petit, on est dedans et puis si on est là, c'est qu'on aime ça. Sinon, on continuerait l'école et on ferait des études supérieures pour faire quelque chose d'autre. Mais on a envie de rester là.
Les forains envisagent une manifestation à Paris dans les prochaines semaines. Alexia et Scott promettent qu'ils en feront partie.
Allez, on termine avec ce coup de tonnerre en Ligue 1 de football.
4 jours après son élimination à domicile en Coupe de France, Lyon s'est de nouveau fait humilier sur son terrain en s'inclinant hier devant Dijon 3-1. Et en fin de rencontre, les fans lyonnais ont même acclamé les passes des déjeuners et hué les joueurs de leur club. Ce n'est pas acceptable d'être contre ses propres joueurs, commentaire du président lyonnais Jean-Michel Aulas.
Et bien sûr que j'en veux à mes supporters. On est dans un contexte où il reste 7 matchs. Et quand on se tire une balle dans le pied, on tire une balle dans le pied, non pas des joueurs, mais de l'institution. Le contexte général qui tend à essayer de mettre en porte-à-faux les joueurs, de mettre en porte-à-faux Bruno Genesio, de mettre en porte-à-faux accessoirement le président, est une aberration quand il s'agit de supporter son équipe. Les réactions, elles ont tendance à contribuer, à fragiliser l'équilibre des joueurs. Et donc, ça n'apporte pas de sens à l'intérêt de l'institution et donc des supporters. Donc, c'est pour ça que j'en veux à mes supporters.
Et on retrouve Rick Delvaux pour la suite du 6-9 sur Inter.
C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Incertain, Jean-Michel Gelinski, incertain le ciel de ce dimanche sur la plupart des régions.
Oui, tout à fait, avec déjà ce matin des ondées parfois mêlées d'orages du golfe du Lion à l'est du Rhône, sur la Corse et dans le sud-ouest. En journée, les régions méridionales vont conserver ce régime de temps instable qui va progressivement gagner vers la Bretagne et dans la moitié est vers la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace, Champagne-Ardenne et les Hauts-de-France. Entre les deux, on va trouver une poche de temps un peu plus clément, du centre Val-de-Loire à la Normandie. En début de matinée, la moyenne des températures est de 5 degrés, avec des extrêmes à 10 en bord de mer, 0 à moins 1 du centre au Massif central. Cet après-midi, il est prévu 12 à 14 du nord-est à Rhône-Alpes et 14 à 17 du nord au sud.